Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, et vous, mes frères et sœurs en philosophie, soyez les bienvenus sur Radio Cardet. Voici le déroulé de cette nouvelle émission. En première partie, nous céderons la parole à notre très cher frère Michel Buffet, président du Conseil Spirit français, lequel aura le grand plaisir de répondre à une question posée par un auditeur. En seconde partie, nous donnerons la parole à notre sœur Marie-Claude Savard du Centre d'études Alain Kardec, Paix et Amour de Québec au Canada, qui poursuivra avec vous la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Cette lecture sera immédiatement suivie par un communiqué de l'Union Spirit Belge au sujet de son 12e symposium. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, avis et communiqués de nos divers partenaires et une courte présentation de livres. Si vous avez des activités dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas. Nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consulter notre site internet. Mais dans l'immédiat, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Un auditeur de Radio Kardec nous demande « Occultisme et spiritisme, quelle est la différence ?» Il est vrai que de nombreuses personnes ont tendance à ne pas bien définir les différences. Voyons la définition de l'occultisme donnée par le petit Robert. « Croyance à l'existence de réalités suprasensibles qui seraient perceptibles par les méthodes des sciences occultes. Ensemble des sciences occultes et des pratiques qui s'y rattachent, cabale, ésotérisme, hermétisme, etc. » Tout cela n'éclaire pas beaucoup, et nous allons pour plus de détails nous référer à Charles Lancelin, qui, dans son livre « L'occultisme et la science », nous dit « Il existe, à l'heure actuelle, dans notre société occidentale, trois voies principales, au moyen desquels l'esprit assoiffé de savoir, ou simplement curieux, peut aborder pratiquement, je veux dire expérimentalement, le mystère. Ces trois voies sont le spiritisme, la théosophie et l'occultisme. » Il précise que la théosophie s'est donnée pour but de vulgariser en Occident les grandes doctrines occultes de l'Inde, et nous offre une science très curieuse, très vaste, quoique trop modifiée de son origine orientale, en vue de s'adapter plus aisément à nos conceptions occidentales. Blavatsky et Ledbetter ont écrit beaucoup sur le sujet. Lancelin présente l'occultisme comme héritier de la sagesse antique, qui offre aujourd'hui aux chercheurs un champ fécond d'investigation, car il ne borne pas ses études, elle creuse les théories léguées par l'enseignement des sanctuaires, touchant les parties élevées de chaque branche des connaissances humaines. L'hyperphysique, l'hyperchimie, l'arithmologie transcendantale, la biologie occulte, etc. Il étudie en somme l'ensemble des connaissances humaines en s'occupant spécialement des possibilités cachées de la nature. Comme nous le voyons, l'occultisme ne se limite pas alors que le spiritisme va mettre la philosophie en avant de la confirmation scientifique par les faits. Si le spiritualisme est la croyance à l'esprit, Alain Kardec a lui dû créer le mot spiritisme pour parler de l'intervention des esprits dans notre monde matériel. Le spiritisme, comme philosophie réincarnationniste, va s'adresser à l'homme pour répondre au questionnement : d'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? et quel est notre avenir. Il affirme l'existence de Dieu et ses lois qui régissent la création, notamment la loi de causalité, justifiant la souffrance. La doctrine des esprits supérieurs ayant été codifiée par Allan Kardec. Le but du spiritisme est l'amélioration des hommes pour un monde meilleur. L'occultisme, lui, cherchera plutôt l'explication scientifique des phénomènes occultes en donnant des théories générales issues de la science des mystères. Le spiritisme peut donc faire l'objet d'études de la part d'un occultiste, et c'est en cela que Charles Lancelin n'a pas voulu se limiter au spiritisme dans ses études, mais je peux dire qu'il se comportait en spirit, ne serait-ce que par les 10 conseils qu'il propose dans son livre « L'occultisme et la science ». Il dit que l'étudiant ne devra jamais perdre de vue les conseils qui suivent. Premièrement, si l'on ne veut pas agir solitairement, mais se réunir en un groupe, choisir toujours un centre où la prière soit pratiquée. D'autre part, se souvenir que les véritables maîtres ne font pas de livres et placent la simplicité et l'humilité au-dessus de toute science, se méfier des pontifes et des hommes qui se disent parfaits. Troisièmement, ne jamais aliéner sa liberté par un serment enchaînant l'individu, soit dans un clergé, soit dans une société secrète. Dieu seul a le droit de recevoir un serment d'obéissance passive. Quatrièmement, se souvenir que toute la puissance invisible vient du Christ et ne jamais entrer dans l'invisible en relation avec un être astral ou spirituel, ne confessant ni Dieu ni le Christ. Cinquièmement, ne pas chercher à avoir des pouvoirs, mais attendre que Dieu nous les donne si nous en sommes dignes. Sixièmement, avoir la certitude que l'homme n'est jamais abandonné du ciel, même dans ses moments de négation et de doute. Septièmement, avoir cette autre certitude que nous sommes dans le plan physique pour les autres et non pour nous, et que par suite, la charité doit présider à tous nos actes. Nous ne devons donc jamais juger les actions d'autrui, ni par la suite condamner notre prochain. Huitièmement, se souvenir que la purification physique par un régime est un enfantillage si elle n'est pas appuyée par la purification astrale, par la charité et le silence, et par la purification spirituelle résultant des efforts pour ne pas penser ou dire du mal d'autrui. Neuvièmement, bien savoir que la prière ou la méditation, qui donnent la paix du cœur, sont préférables à toute magie qui, dans trop de cas, ne demande que de l'orgueil. Dixièmement, et pour finir, ne jamais faire un acte important sans demander de ne pas offenser le ciel. Nous voyons donc là que Charles Lancelin préconise en fait un comportement tout à fait spirit.
Merci Michel. Aujourd'hui, notre sœur Marie-Claude nous invite à poursuivre la lecture de l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 21. Il y aura de faux Christ et de faux prophètes.
Chapitre 21. Il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Titre. On connaît l'arbre à son fruit. L'arbre qui produit de mauvais fruits n'est pas bon, et l'arbre qui produit de bons fruits n'est pas mauvais, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille point de figues sur des épines, et l'on ne coupe point de grappes de raisin sur des ronces. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant en tire de mauvaises du mauvais trésor de son cœur, car la bouche parle de la plénitude du cœur. Saint Luc, chapitre 6, versets 43, 44, 45. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous couverts de peaux de brebis, et qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Peut-on cueillir des raisins sur des épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, tout arbre qui est bon produit de bons fruits, et tout arbre qui est mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut en produire de bons. Tout arbre qui ne produit point de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Saint Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20. Prenez garde que quelqu'un vous séduise, parce que plusieurs viendront sous son nom, disant « Je suis le Christ », et ils en séduiront plusieurs. Il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui séduiront beaucoup de personnes, et parce que l'iniquité abondera, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui-là sera sauvé, qui persévérera jusqu'à la fin. Alors si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez point, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des choses étonnantes jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus mêmes. Saint Matthieu, chapitre 24, versets 4, 5, 11, 12, 13, 23 et 24. Saint Marc, chapitre 13, versets 5, 6, 21, 22. Titre : Mission des prophètes. On attribue vulgairement aux prophètes le don de révéler l'avenir de sorte que les mots prophétie et prédiction sont devenus synonymes. Dans le sens évangélique, le mot prophète a une signification plus étendue. Il se dit de tout envoyé de Dieu avec mission d'instruire les hommes et de leur révéler les choses cachées et les mystères de la vie spirituelle. Un homme peut donc être prophète sans faire de prédiction. Cette idée était celle des Juifs au temps de Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'il fut amené devant le grand prêtre Caïphe, les scribes et les anciens, étant assemblés, lui crachèrent au visage, le frappèrent à coups de poing et lui donnèrent des soufflets en disant « Christ, prophétise-nous et dis qui est celui qui t'a frappé. » Cependant, il est arrivé que tes prophètes ont eu la prescience de l'avenir, soit par intuition, soit par révélation providentielle, afin de donner aux hommes des avertissements. Ces événements s'étant accomplis, le don de prédire l'avenir a été regardé comme un des attributs de la qualité de prophète. Titre : Prodige de faux prophètes. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, qui feront de grands prodiges et des choses étonnantes à séduire les élus mêmes. Ces paroles donnent le véritable sens du mot prodige. Dans l'acception théologique, les prodiges et les miracles sont des phénomènes exceptionnels, en dehors des lois de la nature. Les lois de la nature étant l'œuvre de Dieu seul, il peut sans doute y déroger si cela lui plaît, mais le simple bon sens dit qu'il ne peut avoir donné à des êtres inférieurs et pervers un pouvoir égal au sien, et encore moins le droit de défaire ce qu'il a fait. Jésus ne peut avoir consacré un tel principe. Si donc, selon le sens que l'on attache à ces paroles, l'esprit du mal a le pouvoir de faire des prodiges, tels que les élus même y soient trompés. Il en résulterait que, pouvant faire ce que Dieu fait, les prodiges et les miracles ne sont pas le privilège exclusif des envoyés de Dieu, et ne prouvent rien, puisque rien ne distingue les miracles des saints des miracles du démon. Il faut donc chercher un sens plus rationnel à ces paroles. Aux yeux du vulgaire ignorant, tout phénomène dont la cause est inconnue passe pour surnaturel, merveilleux et miraculeux. La cause, une fois connue, on reconnaît que le phénomène, si extraordinaire qu'il paraisse, n'est autre chose que l'application d'une loi de nature. C'est ainsi que le cercle de faits surnaturels se rétrécit à mesure que s'étend celui de la science. De tout temps, des hommes ont exploité, au profit de leur ambition, de leur intérêt et de leur domination, certaines connaissances qu'ils possédaient afin de se donner le prestige d'un pouvoir soi-disant surhumain ou d'une prétendue mission divine. Ce sont là de faux Christ et de faux prophètes. La diffusion des lumières tue leur crédit. C'est pourquoi le nombre en diminue à mesure que les hommes s'éclairent. Le fait d'opérer ce qui, aux yeux de certaines gens, passe pour des prodiges, n'est donc point le signe d'une mission divine, puisqu'il peut résulter de connaissances que chacun peut acquérir, ou de facultés organiques spéciales que le plus indigne peut posséder aussi bien que le plus digne. Le vrai prophète reconnaît à des caractères plus sérieux et exclusivement moraux. Titre. Ne croyez point à tous les esprits. Mes bien-aimés, ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez si les esprits sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes se sont élevés dans le monde. Saint Jean, Épître 1, chapitre 4, verset 1. Les phénomènes spirites, loin d'accréditer les faux Christs et les faux prophètes, comme quelques-uns affectent de le dire, viennent au contraire leur porter un dernier coup. Ne demandez pas au spiritisme des miracles ni des prodiges, car il déclare formellement qu'il n'en produit point. Comme la physique, la chimie, l'astronomie, la géologie sont venus révéler les lois du monde matériel, il vient révéler d'autres lois inconnues, celles qui régissent les rapports du monde corporel et du monde spirituel, et qui, comme leur aîné de la science, n'en sont pas moins des lois de la nature. En donnant l'explication d'un certain ordre de phénomènes incompris jusqu'à ce jour, il détruit ce qui restait encore dans le domaine du merveilleux. Ceux donc qui seraient tentés d'exploiter ces phénomènes à leur profit, en se faisant passer pour des messies de Dieu, ne pourraient abuser longtemps de la crédulité et seraient bientôt démasqués. D'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, ces phénomènes seuls ne prouvent rien. La mission se prouve par des effets moraux qui n'est pas donné au premier venu de produire. C'est là un des résultats du développement de la science spirite. En scrutant la cause de certains phénomènes, elle lève le voile sur bien des mystères. Ceux qui préfèrent l'obscurité à la lumière ont seul intérêt à la combattre, mais la vérité est comme le soleil, elle dissipe les plus épais brouillards. Le spiritisme vient révéler une autre catégorie bien plus dangereuse de faux Christ et des faux prophètes qui se trouve, non parmi les hommes, mais parmi les désincarnés. C'est celle des esprits trompeurs, hypocrites, orgueilleux et faux savants qui, de la terre, sont passés dans l'erraticité et se parent de noms vénérés pour chercher, à la faveur du masque dont ils se couvrent, à accréditer les idées souvent les plus bizarres et les plus absurdes. Avant que les rapports médianimiques fussent connus, ils exerçaient leur action d'une manière moins ostensible par l'inspiration, la médiumnité inconsciente, auditive ou parlante. Le nombre de ceux qui, à diverses époques, mais dans ces derniers temps surtout, se sont donnés pour quelques-uns des anciens prophètes, pour le Christ, pour Marie, mère du Christ, et même pour Dieu, est considérable. Saint Jean met en garde contre eux quand il dit « Mes bien-aimés, ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez si les esprits sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes se sont élevés dans le monde. » Le spiritisme donne les moyens de les éprouver en indiquant les caractères auxquels on reconnaît les bons esprits, caractères toujours moraux et jamais matériels. C'est au discernement des bons et des mauvais esprits que peuvent surtout s'appliquer ces paroles de Jésus. On reconnaît la qualité de l'arbre à son fruit. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut en produire de bons. On juge les esprits à la qualité de leurs œuvres, comme un arbre à la qualité de ses fruits. Instruction des esprits. Titre : Les faux prophètes. Si l'on vous dit « Christ est ici », n'y allez pas, mais au contraire, tenez-vous sur vos gardes, car les faux prophètes seront nombreux. Mais ne voyez-vous pas les feuilles du figuier qui commencent à blanchir? Ne voyez-vous pas leurs pousses nombreuses attendant l'époque de la floraison? Et Christ ne vous a-t-il pas dit, on reconnaît un arbre à son fruit? Si donc les fruits sont amers, vous jugez que l'arbre est mauvais. Mais s'ils sont doux et salutaires, vous dites, rien de pur ne peut sortir d'une souche mauvaise. C'est ainsi, mes frères, que vous devez juger. Ce sont les œuvres que vous devez examiner. Si ceux qui se disent revêtus de la puissance divine sont accompagnés de toutes les marques d'une pareille mission, c'est-à-dire s'ils possèdent au plus haut degré les vertus chrétiennes et éternelles, la charité, l'amour, l'indulgence, la bonté, qui concilie tous les cœurs, si à l'appui des paroles, ils joignent les actes, alors vous pourrez dire, ceux-ci sont bien réellement les envoyés de Dieu. Mais méfiez-vous des paroles mielleuses, méfiez-vous des scribes et des pharisiens qui prient dans les places publiques, vêtus de longues robes. Méfiez-vous de ceux qui prétendent avoir le seul et unique monopole de la vérité. Non, non, Christ n'est point là, car ceux qui l'envoient propager sa sainte doctrine et régénérer son peuple seront à l'exemple du Maître, doux et humble de cœur par-dessus toute chose. Ceux qui doivent, par leur exemple et leurs conseils, sauver l'humanité, courant à sa perte et vagabondant dans des routes tortueuses, ceux-là seront par-dessus tout modestes et humbles. Tout ce qui révèle un atome d'orgueil, fuyez-le comme une lèpre contagieuse qui corrompt tout ce qu'elle touche. Rappelez-vous que chaque créature porte sur son front, mais dans ses actes surtout, le cachet de sa grandeur ou de sa décadence. Allez donc, mes enfants bien-aimés, marchez sans tergiversation, sans arrière-pensée, dans la route bénie que vous avez entreprise. Allez, allez toujours sans crainte, éloignez courageusement tout ce qui pourrait entraver votre marche vers le but éternel. Voyageurs, vous ne serez que bien peu de temps encore dans les ténèbres et les douleurs de l'épreuve. Si vous laissez aller vos cœurs à cette douce doctrine qui vient vous révéler les lois éternelles et satisfaire toutes les aspirations de votre âme vers l'inconnu, dès à présent, vous pouvez donner un corps à ces sylphes légers que vous voyez passer dans vos rêves et qui, éphémères, ne pouvaient que charmer votre esprit. Mais ne dites rien à votre cœur. Maintenant, mes aimés, la mort a disparu pour faire place à l'ange radieux que vous connaissez, l'ange du revoir et de la réunion. Maintenant, vous, qui avez bien accompli la tâche imposée par le Créateur, vous n'avez plus rien à craindre de sa justice, car il est père et pardonne toujours à ses enfants égarés qui crient miséricorde. Continuez donc, avancez sans cesse, que votre devise soit celle du progrès continu en toutes choses, jusqu'à ce que vous arriviez enfin à ce terme heureux où vous attendent tous ceux qui vous ont précédé. Louis, Bordeaux, 1861. Titre : Caractère du vrai prophète. Défiez-vous des faux prophètes. Cette recommandation est utile dans tous les temps, mais surtout dans les moments de transition où, comme dans celui-ci, s'élabore une transformation de l'humanité, car alors une foule d'ambitieux et d'intrigants se pose en réformateurs et en messies. C'est contre ces imposteurs qu'il faut se tenir en garde, et il est du devoir de tout honnête homme de les démasquer. Vous demanderez sans doute comment on peut les reconnaître. Voici leur signalement. On ne confie le commandement d'une armée qu'à un général habile et capable de la diriger. Croyez-vous donc que Dieu soit moins prudent que les hommes? Soyez certain qu'il ne confie les missions importantes qu'à ceux qu'il sait capable de les remplir, car les grandes missions sont de lourds fardeaux qui écraseraient l'homme trop faible pour les porter. Comme en toute chose, le maître doit en savoir plus que l'écolier, pour faire avancer l'humanité moralement et intellectuellement, il faut des hommes supérieurs en intelligence et en moralité. C'est pourquoi ce sont toujours des esprits déjà très avancés, ayant fait leurs preuves dans d'autres existences, qui s'incarnent dans ce but. Car s'ils ne sont pas supérieurs au milieu dans lequel ils doivent agir, leur action sera nulle. Ceci posé, concluez que le vrai missionnaire de Dieu doit justifier sa mission par sa supériorité, par ses vertus, par la grandeur, par le résultat et l'influence moralisatrice de ses œuvres. Tirez encore cette conséquence que s'il est, par son caractère, par ses vertus, par son intelligence, au-dessous du rôle qu'il se donne, ou du personnage sous le nom duquel il s'abrite, ce n'est qu'un histrion de bas étage qui ne sait pas même copier son modèle. Une autre considération, c'est que la plupart des vrais missionnaires de Dieu s'ignorent eux-mêmes. Ils accomplissent ce à quoi ils sont appelés, par la force de leur génie, secondé par la puissance occulte qui les inspire et les dirige à leur insu, mais sans dessein prémédité. En un mot, les vrais prophètes se révèlent par leurs actes, on les devine, tandis que les faux prophètes se posent eux-mêmes comme les envoyés de Dieu. Le premier est humble et modeste, le second est orgueilleux et plein de lui-même. Il parle avec hauteur, et, comme tous les menteurs, il semble toujours craindre de ne pas être cru. On a vu de ces imposteurs se donner pour les apôtres du Christ, d'autres pour le Christ lui-même. Ce qui est à la honte de l'humanité, c'est qu'ils ont trouvé des gens assez crédules pour ajouter foi à de pareilles turpitudes. Une considération bien simple, cependant, devrait ouvrir les yeux du plus aveugle. C'est que si le Christ se réincarnerait sur la terre, il y viendrait avec toute sa puissance et toutes ses vertus, à moins d'admettre ce qui serait absurde qu'il eût dégénéré. Or, de même que si vous ôtez à Dieu un seul de ses attributs, vous n'aurez plus Dieu, si vous ôtez une seule des vertus du Christ, vous n'aurez plus le Christ. Ceux qui se donnent pour le Christ ont-ils toutes ces vertus? Là est la question. Regardez, scrutez leurs pensées et leurs actes, et vous reconnaîtrez qu'ils manquent par-dessus tout des qualités distinctives du Christ, l'humilité et la charité, tandis qu'ils ont ce qu'ils n'avaient pas, la cupidité et l'orgueil. Remarquez d'ailleurs qu'il y a dans ce moment et dans différents pays plusieurs prétendus Christ, comme il y a plusieurs prétendus Élie, Saint Jean ou Saint Pierre, et que nécessairement ils ne peuvent être tous véritables. Tenez pour certain que ce sont des gens qui exploitent la crédulité et trouvent commode de vivre aux dépens de ceux qui les écoutent. Défiez-vous donc des faux prophètes, surtout dans un temps de rénovation, parce que beaucoup d'imposteurs se diront les envoyés de Dieu. Ils se procurent une vaniteuse satisfaction sur la terre, mais une terrible justice les attend. Vous pouvez en être certain. Eraste, Paris, 1862. Titre : Les faux prophètes de l'ératicité. Les faux prophètes ne sont pas seulement parmi les incarnés. Ils sont aussi, et en bien plus grand nombre, parmi les esprits orgueilleux qui sont de faux semblants d'amour et de charité, sèment la désunion et retardent l'œuvre émancipatrice de l'humanité, en jetant à la traverse leur système absurde qu'ils font accepter par leur médium, et pour mieux fasciner ceux qui veulent abuser, pour donner plus de poids à leur théorie, ils se parent sans scrupule de noms que les hommes ne prononcent qu'avec respect. Ce sont eux qui sèment des ferments d'antagonisme entre les groupes, qui les poussent à s'isoler les uns des autres et à se voir de mauvais œil. Cela seul suffirait pour les démasquer, car, en agissant ainsi, ils donnent eux-mêmes le plus formel démenti à ce qu'ils prétendent être. Aveugles donc sont les hommes qui se laissent prendre à un piège aussi grossier. Mais il y a bien d'autres moyens de les reconnaître. Des esprits de l'ordre auxquels ils disent appartenir doivent être non seulement très bons, mais en outre éminemment rationnels. Eh bien, passez leur système au tamis de la raison et du bon sens, et vous verrez ce qui en restera. Convenez donc avec moi que, toutes les fois qu'un esprit indique, comme remède aux maux de l'humanité, ou comme moyen d'arriver à sa transformation, des choses utopiques et impraticables, des mesures puériles et ridicules, quand il formule un système contredit par les plus vulgaires notions de la science, ce ne peut être qu'un esprit ignorant et menteur. D'un autre côté, croyez bien que si la vérité n'est pas toujours appréciée par les individus, elle l'est toujours par le bon sens des masses, et c'est encore là un critérium. Si deux principes se contredisent, vous aurez la mesure de leur valeur intrinsèque en cherchant celui qui se trouve le plus d'écho et de sympathie. Il serait illogique, en effet, d'admettre qu'une doctrine qui verrait diminuer le nombre de ses partisans fût plus vraie que celle qui voit les siens s'augmenter. Dieu, voulant que la vérité arrive à tous, ne la confine pas dans un cercle restreint. Il la fait surgir sur différents points, afin que partout la lumière soit à côté des ténèbres. Repoussez impitoyablement tous ces esprits qui se donnent comme conseil exclusif en prêchant la division et l'isolement. Ce sont presque toujours des esprits vaniteux et médiocres qui tendent à s'imposer aux hommes faibles et crédules, en leur prodiguant des louanges exagérées afin de les fasciner et de les tenir sous leur domination. Ce sont généralement des esprits affamés de pouvoir qui, despotes publics ou privés de leur vivant, veulent avoir encore des victimes à tyranniser après leur mort. En général, défiez-vous des communications qui portent un caractère de mysticisme et d'étrangeté, ou qui prescrivent des cérémonies et des actes bizarres. Il y a toujours alors un motif légitime de suspicion. D'un autre côté, croyez bien que lorsqu'une vérité doit être révélée à l'humanité, elle est, pour ainsi dire, instantanément communiquée dans tous les groupes sérieux qui possèdent de sérieux médiums, et non pas à tel ou tel à l'exclusion des autres. Nul n'est parfait médium s'il est obsédé, et il y a obsession manifeste lorsqu'un médium n'est apte qu'à recevoir les communications d'un esprit spécial, si haut que celui-ci cherche à se placer lui-même. En conséquence, tout médium, tout groupe qui se croit privilégié par des communications que seuls ils peuvent recevoir et qui, d'autre part, sont assujettis à des pratiques qui frisent la superstition, sont indubitablement sous le coup d'une obsession des mieux caractérisées, surtout quand l'esprit dominateur se targue d'un nom que tous, esprit et incarné, nous devons honorer et respecter, et ne pas laisser commettre à tout propos. Il est incontestable qu'en soumettant au creuset de la raison et de la logique toutes les données et toutes les communications des esprits, il sera facile de repousser l'absurdité et l'erreur. Un médium peut être fasciné, un groupe abusé, mais le contrôle sévère des autres groupes, mais la science acquise et la haute autorité morale des chefs de groupe, mais des communications des principaux médiums qui reçoivent un cachet de logique et d'authenticité de nos meilleurs esprits, feront rapidement justice de ces dictées mensongères et astucieuses émanées d'une tourbe d'esprits trompeurs et méchants. Éraste, disciple de saint Paul, Paris, 1862. Titre : Jérémie et les faux prophètes. Voici ce que dit le Seigneur des armées. N'écoutez point les paroles des prophètes qui vous prophétisent et qui vous trompent. Ils publient les visions de leur cœur et non ce qu'ils ont appris de la bouche du Seigneur. Ils disent à ceux qui me blasphèment : Le Seigneur l'a dit, vous aurez la paix, et à tous ceux qui marchent dans la corruption de leur cœur, il ne vous arrivera point de mal. Mais qui d'entre eux a assisté au conseil de Dieu, qui l'a vu et qui a entendu ce qu'il a dit? Je n'envoyais point ces prophètes et ils couraient d'eux-mêmes. Je ne leur parlais point et ils prophétisaient de leur tête. J'ai entendu ce qu'ont dit ces prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom, en disant « J'ai songé, j'ai songé ». Jusque à quand cette imagination sera-t-elle dans le cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge et dont les prophéties ne sont que les séductions de leur cœur? Si donc ce peuple, ou un prophète, ou un prêtre, vous interroge et vous dit « Quel est le fardeau du Seigneur ?» vous lui direz « C'est vous-même qui êtes le fardeau, et je vous jetterai bien loin de moi, dit le Seigneur. » Jérémie, chapitre 23, versets 16, 17, 18, 21, 25, 26, 33. C'est sur ce passage du prophète Jérémie que je vais vous entretenir, mes amis. Dieu, parlant par sa bouche, dit « C'est la vision de leur cœur qui les fait parler ». Ces mots indiquent clairement que déjà à cette époque, les charlatans et les exaltés abusaient du don de prophétie et l'exploitaient. Ils abusaient par conséquent de la foi simple et presque aveugle du peuple en prédisant pour de l'argent de bonnes et agréables choses. Cette sorte de tromperie était assez générale chez la nation juive, et il est facile de comprendre que le pauvre peuple, dans son ignorance, était dans l'impossibilité de distinguer les bons d'avec les mauvais, et il était toujours plus ou moins dupe de ces soi-disant prophètes qui n'étaient que des imposteurs ou des fanatiques. Y a-t-il rien de plus significatif que ces paroles? Je n'ai point envoyé ces prophètes-là, et ils ont couru d'eux-mêmes. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Plus loin, il dit « J'ai entendu ces prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom, en disant « J'ai songé, j'ai songé ». Il indiquait ainsi un des moyens employés pour exploiter la confiance qu'on avait en eux. La multitude, toujours crédule, ne pensait point à contester la véracité de leurs songes ou de leurs visions. Elle trouvait cela tout naturel et invitait toujours ses prophètes à parler. Après les paroles du prophète, écoutez les sages conseils de l'apôtre Saint Jean quand il dit « Ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez si les esprits sont de Dieu. Car parmi les invisibles, il en est aussi qui se plaisent à faire des dupes quand ils en trouvent l'occasion. Ces dupes sont, bien entendu, les médiums qui ne prennent pas assez de précautions. Là est sans contredit un des plus grands écueils contre lesquels beaucoup viennent se briser, surtout quand ils sont novices dans le spiritisme. C'est pour eux une épreuve dont ils ne peuvent triompher que par une grande prudence. Apprenez donc, avant toute chose, à distinguer les bons et les mauvais esprits, pour ne pas devenir vous-même de faux prophètes. » Luoz, Esprit protecteur, Karlsruhe, 1861.
Terminons notre lecture du jour par le chapitre 22 de l'Évangile selon le spiritisme « Ne séparez pas ce que Dieu a joint ».
Chapitre 22 « Ne séparez pas ce que Dieu a joint ». Titre « Indissolubilité du mariage ». Les pharisiens vinrent aussi à lui pour le tenter, et ils lui dirent « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit ?» Il leur répondit « N'avez-vous point lu que celui qui créa l'homme dès le commencement les créa mâle et femelle, et qu'il ait dit « Pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils ne feront plus tous deux qu'une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. » Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il ordonné qu'on donne à sa femme un écrit de séparation et qu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes, mais cela n'a pas été dès le commencement. Aussi, je vous déclare, que quiconque renvoie sa femme, si ce n'est en cas d'adultère, et en épouse une autre, commet un adultère, et que celui qui épouse celle qu'un autre a renvoyée, commet aussi un adultère. Saint Matthieu, chapitre 19, versets de 3 à 9. Il n'y a d'immuable que ce qui vient de Dieu. Tout ce qui est l'œuvre des hommes est sujet à changement. Les lois de la nature sont les mêmes dans tous les temps et dans tous les pays. Les lois humaines changent selon les temps, les lieux et le progrès de l'intelligence. Dans le mariage, ce qui est d'ordre divin, c'est l'union des sexes pour opérer le renouvellement des êtres qui meurent. Mais les conditions qui règlent cette union sont d'ordre tellement humain qu'il n'y a pas dans le monde entier, et même dans la chrétienté, deux pays où elles soient absolument les mêmes, et qu'il n'y en a pas un où elles n'aient subi des changements avec le temps. Il en résulte qu'aux yeux de la loi civile, ce qui est légitime dans une contrée et à une époque, est adultère dans une autre contrée et dans un autre temps. Et cela parce que la loi civile a pour but de régler les intérêts des familles, et que ces intérêts varient selon les mœurs et les besoins locaux. C'est ainsi, par exemple, que dans certains pays, le mariage religieux est seul légitime. Dans d'autres, il faut en plus le mariage civil. Dans d'autres, enfin, le mariage civil seul suffit. Mais dans l'union des sexes, à côté de la loi divine matérielle, commune à tous les êtres vivants, il y a une autre loi divine, immuable comme toutes les lois de Dieu, exclusivement morale, c'est la loi d'amour. Dieu a voulu que les êtres fussent unis, non seulement par les liens de la chair, mais par ceux de l'âme, afin que l'affection mutuelle des époux se reportât sur leurs enfants, et qu'ils fussent deux au lieu d'un, à les aimer, à les soigner et à les faire progresser. Dans les conditions ordinaires du mariage, est-il tenu compte de cette loi d'amour? Nullement. Ce que l'on consulte, ce n'est pas l'affection des deux êtres qu'un mutuel sentiment attire l'un vers l'autre, puisque le plus souvent on brise cette affection. Ce que l'on cherche, ce n'est pas la satisfaction du cœur, mais celle de l'orgueil, de la vanité, de la cupidité, en un mot, de tous les intérêts matériels. Quand tout est pour le mieux selon ses intérêts, on dit que le mariage est convenable. Et quand les bourses sont bien assorties, on dit que les époux le sont également et doivent être bien heureux. Mais ni la loi civile, ni les engagements qu'elle fait contracter ne peuvent suppléer la loi d'amour si cette loi ne préside pas à l'union. Il en résulte que souvent, ce que l'on a uni de force se sépare de soi-même, que le serment que l'on prononce au pied de l'autel devient un parjure si on le dit comme une formule banale. De là les unions malheureuses qui finissent par devenir criminelles. Double malheur que l'on éviterait si, dans les conditions du mariage, on ne faisait pas abstraction de la seule qui le sanctionne aux yeux de Dieu, la loi d'amour. Quand Dieu a dit « Vous ne ferez qu'une même chair » et quand Jésus a dit « Vous ne séparerez pas ce que Dieu a uni », cela doit s'entendre de l'union selon la loi immuable de Dieu et non selon la loi changeante des hommes. La loi civile est-elle donc superflue et faut-il en revenir au mariage selon la nature? Non, certainement. La loi civile a pour but de régler les rapports sociaux et les intérêts des familles selon les exigences de la civilisation. Voilà pourquoi elle est utile, nécessaire, mais variable. Elle doit être prévoyante, parce que l'homme civilisé ne peut vivre comme le sauvage. Mais rien, absolument rien, ne s'oppose à ce qu'elle soit le corollaire de la loi de Dieu. Les obstacles à l'accomplissement de la loi divine viennent des préjugés et non de la loi civile. Ces préjugés, bien qu'encore vivaces, ont déjà perdu de leur empire chez les peuples éclairés. Ils disparaîtront avec le progrès moral, qui ouvrira enfin les yeux sur les maux sans nombre, les fautes, les crimes même qui résultent des unions contractées en vue des seuls intérêts matériels. Et l'on se demandera un jour s'il est plus humain, plus charitable, plus moral de river l'un à l'autre des êtres qui ne peuvent vivre ensemble que de leur rendre la liberté. Si la perspective d'une chaîne indissoluble n'augmente pas le nombre des unions irrégulières. Titre : Le divorce. Le divorce est une loi humaine qui a pour but de séparer légalement ce qui est séparé de fait. Elle n'est point contraire à la loi de Dieu, puisqu'elle ne réforme que ce que les hommes ont fait, et qu'elle n'est applicable que dans les cas où il n'a pas été tenu compte de la loi divine. Si elle était contraire à cette loi, l'Église elle-même serait forcée de regarder comme prévaricateurs ceux de ses chefs qui, de leur propre autorité et au nom de la religion, ont, en plus d'une circonstance, imposé le divorce. Double prévarication alors, puisque c'était en vue d'intérêts temporels seuls et non pour satisfaire à la loi d'amour. Mais Jésus lui-même ne consacre pas l'indissolubilité absolue du mariage. Ne dit-il pas, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes ?» Ce qui signifie que, dès le temps de Moïse, l'affection mutuelle n'étant pas le but unique du mariage, la séparation pouvait devenir nécessaire. Mais, ajoute-t-il, cela n'a pas été dès le commencement. C'est-à-dire qu'à l'origine de l'humanité, alors que les hommes n'étaient pas encore pervertis par l'égoïsme et l'orgueil, et qu'ils vivaient selon la loi de Dieu, les unions fondées sur la sympathie et non sur la vanité ou l'ambition ne donnaient pas lieu à répudiation. Il va plus loin. Il spécifie le cas où la répudiation peut avoir lieu. C'est celui d'adultère. Or, l'adultère n'existe pas là où règne une affection réciproque sincère. Il défend, il est vrai, à tout homme d'épouser la femme répudiée, mais il faut tenir compte des mœurs et du caractère des hommes de son temps. La loi mosaïque, dans ce cas, prescrivait la lapidation. Voulant abolir un usage barbare, il fallait néanmoins une pénalité, et il la trouve dans la flétrissure que devait imprimer l'interdiction d'un second mariage. C'était, en quelque sorte, une loi civile substituée à une autre loi civile, mais qui, comme toutes les lois de cette nature, devait subir l'épreuve du temps.
Le 12e symposium de la francophonie, organisé par l'Union Spirit Belge, a eu lieu ce week-end des 4 et 5 juin 2011 au château de Wégimont, proche de la ville de Liège, en Belgique. Sous l'égide du mouvement spirit francophone, nous avons, une fois encore, manifesté la grandeur de notre cause, ainsi que la profondeur légitime de nos convictions. Ce symposium, comme les précédents, a eu un énorme succès, recevant pour la seconde fois les délégués du Conseil Spirit International Section Europe, avec la présence très remarquée de la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, la Hollande, la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, la France, l'Italie, la Biélorussie, sans oublier le plus lointain, le Brésil, avec l'invité d'honneur, notre bien-aimé et honorable frère Nestor Mazzotti, secrétaire général du Conseil Spirit International et président de la Fédération Spirit Brésilienne. La participation de ces pays au symposium de la francophonie démontre que le spiritisme n'a pas de frontières, à aucun niveau que ce soit. Cette superbe rencontre a pu être réalisée grâce à la participation active de nombreux bénévoles qui ont travaillé avec beaucoup d'amour et ont fait preuve d'une très bonne organisation au dire des nombreux participants. Pour rappel, le château de Wégimont offre un cadre vraiment exceptionnel, car entouré de verdure et à proximité d'un parc d'attractions familiales, c'est ainsi que les personnes qui le souhaitaient ont eu la possibilité de loger sur place et de se restaurer pour un prix plus que démocratique. Cette belle opportunité, fortement ensoleillée, a permis aux personnes présentes de vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange. Ce symposium a aussi été l'occasion de se retrouver en famille avec enfants et petits-enfants. Dans ce but, outre les causeries, conférences, diverses activités pour et avec les enfants ont été organisées au cours de ce week-end. Vu le caractère familial et spirituel de cette rencontre, un espace de rencontre et de dialogue avait été réservé en soirée et la nuit fut bien courte pour certains, tant les conversations étaient intéressantes. Organisé par l'Union Spirit Belge Pays Hôte et agrément secondé par le Conseil Spirit Français, ce symposium avait pour thème central le travail des responsables spirites et les 150 ans du livre des médiums. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce remarquable événement fraternel lors d'une prochaine émission. Encore un grand merci pour votre participation. Et pourquoi ne pas nous dire dès aujourd'hui à l'année prochaine? Alors, qu'en pensez-vous? À bientôt. Nous voici arrivés à l'agenda des activités organisées en Belgique et en France. En Belgique tout d'abord. Le mercredi 8 juin 2011 à 19h30, le noyau d'études Camille Flammarion et le centre d'études spirit Alain Kardec de Bruxelles organiseront conjointement une rencontre avec notre très cher frère Sergio Thyssen, lequel vous présentera une conférence sur le thème « Le point de vue médical et spirit sur la dépression, le mal du siècle ». L'entrée sera gratuite et aura lieu au siège social du Cercle d'études spirit Alain Kardec de Bruxelles, dont l'adresse est la suivante, 134 rue Louis App à 1040 Bruxelles. Pour renseignements complémentaires, merci de bien vouloir consulter les sites des centres spirit organisateurs, à savoir www.nicafla.com et www.bruxellescessac.org. Venez également participer à leur fête de juin, le dimanche 12 juin 2011, de 12h à 18h. Il y aura des animations, des jeux, des danses et beaucoup de bonne humeur. L'entrée sera de 5 euros. Le parking est gratuit. Cette fête typiquement brésilienne est conjointement organisée par le NICAFLA et le CESAC de Bruxelles. L'adresse du jour sera Collège Jean 23, boulevard de la Woluwe 24 à 1150 Woluwe Saint-Pierre. Pour plus d'infos, merci de contacter le service info @nicafla.com ou cessacbruxelles@gmail.com. En France, l'Association parisienne d'études spirites nous prie de vous communiquer leur programme d'activité pour le mois de juin. Vendredi 10 juin, de 20h à 22h, le point de vue médico-spirit de la dépression, le mal du siècle, par notre très cher frère Sergio Thyssen. Le samedi 11 juin, de 11h à 13h, spiritisme et médiumnité, questions et réponses avec Philippe Marquès. Samedi 11 juin, toujours de 15h à 17h, du départ au retour, quel cheminement d'après une réflexion sur les mémoires d'un suicidé. Le vendredi 17 juin, de 20h à 22h, la communication de pensée par Daniela Lurel. Vendredi 24 juin, de 20h à 22h, puissance de la pensée, une porte d'accès à la conscience spirituelle, Philippe Marquès. Le samedi 25 juin, de 15h à 17h, l'assistance aux familles en deuil, un travail d'écoute au sein de l'Association parisienne d'études spirites. Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner depuis la France en formant le 01 41 931 708 ou visiter leur site internet http://www.apes.asso.fr. À Agen, le Conseil Spirit français nous prie de vous informer des dates et du lieu de son prochain symposium. Celui-ci aura lieu les 24 et 25 septembre 2011, de 9h30 à 18h à Agen, département 47 en France. Le thème central sera les centres spirites, l'unification. L'adresse du jour, salle Picasso et Terle, rue Paul Ponce, à 47 000 Agen, proche du stadium. Pour renseignements complémentaires, merci de bien vouloir prendre contact en formant depuis la France le 06 21 42 58 60 ou via courriel à l'adresse suivante jean-pierre.pipino@conseil-spirit.fr. Le mouvement spirit francophone MSF nous prie également de bien vouloir vous informer des dates et du lieu de son prochain congrès francophone de médecine et de spiritualité. Celui-ci s'effectuera les 29 et 30 octobre 2011 à la salle Bruxelles de la FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis à Paris. De plus amples informations seront bientôt disponibles sur le site du mouvement spirit francophone via l'adresse suivante http://congrès.lmsf.org. Nous voici arrivés à notre toute nouvelle séquence réservée à la présentation de livres spirit. Bonjour Arlette.
Bonjour Gérard. Nous allons aujourd'hui présenter deux livres écrits par Francisco Candido Xavier sous la dictée de l'esprit d'André Luis. Le premier, intitulé « Dans les domaines de la médiumnité », André Luis analyse les divers aspects du filtrage médiumnique, louant l'effort des médiums fidèles au mandat spirituel reçu avant l'incarnation, et prévient des risques de l'échange mal conduit entre les deux mondes. Il aborde la psychophonie, le somnambulisme, la possession, la clairvoyance, la clairaudience, le dédoublement, la fascination, la psychométrie et la médiumnité des faits physiques, entre autres. Il s'agit d'une étude technique de grande importance qui révèle comment agissent les esprits lors des processus de communication avec les incarnés. Il transmet des concepts émanant de mentors élevés de la spiritualité, contenus dans des expositions à thématiques philosophiques, scientifiques et évangéliques, indispensables pour ceux qui se dédient à l'étude du sujet. Le second a pour titre « Libération ». Tout au long d'une émouvante narration, André Luis fait ressortir le travail des esprits supérieurs dans l'effort de conversion au bien de l'esprit grégorien. Narration qui atteint son apogée lors de son inoubliable rencontre avec sa mère, esprit d'élite, se rendant à l'irrésistible appel de l'amour. Il fait également connaître les modes d'action des esprits malheureux qui cherchent à envelopper les hommes dans leurs agissements. L'auteur spirituel donne des informations relatives à l'intercession réalisée par les esprits supérieurs au bénéfice des hommes, donnant des preuves de la miséricorde divine qui concède à chacun l'opportunité bénite de la libération par l'étude, le travail et par le service persévérant dans la pratique du bien. Bonne lecture et à bientôt.
Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.